Chapitres 5 et 6. La servitude d'Israël devient plus dure. Première visite de Moïse et Aaron au Pharaon. Le résultat du premier appel au Pharaon n'était vraiment pas encourageant. La crainte de perdre les Israélites porta le roi à les tenir d'autant plus fermement et à les surveiller avec un redoublement de vigilance. Toutes les fois que les limites de la puissance de Satan sont resserrées, la fureur de celui-ci augmente. Il en fut ainsi quand Moïse et Aaron apparurent pour la délivrance d'Israël. La fournaise est sur le point d'être éteinte par le libérateur, mais avant qu'elle le soit, elle brûle avec plus d'intensité et l'ardeur du feu augmente. Le diable n'aime à lâcher aucun de ceux qu'il a tenus sous sa terrible main. Il est, cet homme fort, revêtu de ses armes, dont parle Luc 11, versets 21 et 22. Tandis qu'il garde son palais, ses biens sont en paix. Mais, Dieu soit béni, il y en a un qui est plus fort que lui, et qui lui a ôté son armure à laquelle il se confiait, et a fait le partage de ses dépouilles. Et après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent au Pharaon, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Verset 1. Tel était le message de l'Éternel au Pharaon. Il demandait pour le peuple une entière délivrance, parce qu'Israël était son peuple, et il voulait qu'il lui célèbre une fête solennelle dans le désert. Dieu, pour être satisfait, ne veut rien de moins pour ses élus qu'une délivrance complète du joug de l'esclavage. Déliez-le et laissez-le aller. Jean 11, verset 44. Est le propos de Dieu envers ceux qui, bien que tenus en esclavage par Satan, sont ceux auxquels il veut donner la vie éternelle. Le pécheur délivré de l'esclavage de Satan. Quand nous contemplons les enfants d'Israël au milieu des fours à briques de l'Égypte, nous avons devant nous une représentation exacte de la condition naturelle de tout enfant d'Adam. Ils étaient là, écrasés sous le joug pesant du Pharaon, sans aucune force pour se délivrer. La simple demande d'un peu de liberté ne fit que pousser l'oppresseur à les charger d'un joug plus accablant. Il fallait nécessairement que la délivrance vienne du dehors. Mais d'où devait-elle venir? Le pauvre peuple n'avait d'autre ressource que de regarder en haut. Dieu était son refuge. Il pouvait racheter Israël par sa toute-puissance. En l'Éternel seul était le salut pour ce peuple misérable et opprimé. Il en est toujours ainsi. Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4, verset 12. Le pécheur est sous le joug d'un maître qui le gouverne avec un pouvoir despotique. Il est vendu au péché. Romains 7, verset 14. Captif de Satan pour faire sa volonté, enchaîné dans les liens de ses convoitises, de ses passions et de son caractère, sans force, Romains 5, verset 6, sans espérance, sans Dieu, Éphésiens 2, verset 12, telle est sa condition. Comment donc se délivrerait-il lui-même? Tout ce qu'il fait, il le fait comme esclave d'un autre. Ses pensées, ses paroles, ses actions sont les pensées, les paroles et les actions d'un esclave. Lors même qu'il pleurerait et soupirerait après la délivrance, ses pleurs et ses soupirs ne sont encore que la triste preuve de son esclavage. Il peut lutter pour la liberté, mais ses efforts mêmes, bien qu'ils témoignent de son désir d'être libre, sont la déclaration positive de son asservissement. Or, il ne s'agit pas seulement de la condition du pécheur. Sa nature même est radicalement corrompue et tout entière soumise à la puissance de Satan. Ainsi, le pécheur n'a pas seulement besoin d'être introduit dans une nouvelle position, il faut encore qu'il soit doué d'une nouvelle nature. La nature et la position vont ensemble. S'il était au pouvoir du pécheur d'améliorer la condition dans laquelle il se trouve, à quoi cela lui servirait-il tant que sa nature est irrémédiablement mauvaise? Il faut une nature qui corresponde à la position et une position qui corresponde aux capacités, aux désirs, aux affections et aux tendances de la nature. Or, l'évangile de la grâce de Dieu nous apprend que le croyant est introduit dans une condition entièrement nouvelle, qu'il n'est plus considéré comme étant encore dans ses péchés, mais dans un état de parfaite et éternelle justification. La condition dans laquelle Dieu le voit maintenant n'est pas seulement un état de pardon complet, mais un état tel que la sainteté infinie de Dieu ne peut y découvrir aucune tache. Le croyant a été retiré de sa condition première de culpabilité et placé, d'une manière absolue et pour l'éternité, dans une condition nouvelle de justice parfaite et pure. Ce n'est pas qu'en aucune manière son ancienne condition ait été améliorée, car ce qui est tordu ne peut être redressé. Ecclésiaste 1, verset 15. L'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? Jérémie 13, verset 23. Rien n'est plus opposé à la vérité fondamentale de l'Évangile que la théorie d'une amélioration graduelle dans la condition du pécheur. Né dans une condition déterminée, il faut qu'il soit né de nouveau pour entrer dans une autre condition. Il pourra essayer de s'améliorer, prendre la résolution de devenir meilleur à l'avenir, de commencer une nouvelle page, de changer sa manière de vivre. Mais pour tout cela, il ne sera aucunement sorti de sa condition réelle de pécheur. Il pourra devenir ce qu'on appelle religieux, il pourra essayer de prier, il pourra suivre assidûment les ordonnances du culte et revêtir toutes les apparences d'une réforme morale, mais rien de tout cela ne peut changer quoi que ce soit à son état réel devant Dieu. Il en est de même pour ce qui concerne la nature. Comment un homme pourrait-il changer sa nature? Il peut lui faire subir une succession d'opérations, il peut essayer de la dompter, de la soumettre à une discipline, mais ce sera toujours sa nature. Ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, verset 6. Il faut à l'homme une nouvelle nature, aussi bien qu'une nouvelle condition. Mais comment l'acquérir? En croyant le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. 1 Jean 5, verset 10. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 12 et 13. Nous apprenons ici que ceux qui croient au nom du Fils unique de Dieu ont le droit et le privilège d'être enfants de Dieu. Ils sont rendus participants d'une nouvelle nature, ils ont la vie éternelle. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, verset 36. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 11 et 12. Telle est la doctrine de l'Écriture. Mais comment et sur quel fondement le croyant est-il introduit dans une condition de justice divine et rendu participant de la nature divine? Ce grand changement dépend tout entier du fait que Jésus mourut et qu'il est ressuscité. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Il quitta le trône de la gloire. Il descendit dans ce monde de péché et de misère, en ressemblance de chair de péché, et après avoir parfaitement manifesté et glorifié Dieu dans tous les actes de sa vie ici-bas, il mourut sur la croix, sous le poids de toutes les transgressions de son peuple. Il a ainsi divinement satisfait à tout ce qui était ou pouvait être contre nous. Il a rendu la loi grande et honorable. Ésaïe 42, verset 21. Puis il fut fait malédiction, étant pendu au bois. Il a satisfait à tous les droits de Dieu. Tout ennemi est réduit au silence. Tout obstacle est ôté. La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont entrebaisées. Psaume 85, verset 10. La justice infinie de Dieu ayant été satisfaite, son amour infini peut se déverser dans le cœur brisé du pécheur pour le calmer et le réjouir. En même temps, l'eau et le sang qui découlèrent du côté percé de Jésus satisfont parfaitement à tous les besoins d'une conscience coupable et convaincue de péché. Le Seigneur Jésus était à notre place sur la croix. Il était notre représentant. Il mourut, le juste pour les injustes. 1 Pierre 3, verset 18. Il fut fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il fut mis au rang des transgresseurs. Il fut enseveli et ressuscita, ayant tout accompli. Ainsi, il n'y a plus rien désormais qui soit contre le croyant. Il est uni à Christ et dans la même condition de justice que Christ. Comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Voilà ce qui donne à la conscience une paix solide et bien établie. Si nous ne sommes plus dans un état de culpabilité, mais dans un état de justification, si Dieu ne nous voit qu'en Christ et comme Christ, alors une paix parfaite est notre partage. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Le sang de l'agneau a ôté toute la culpabilité du croyant, a effacé sa lourde dette et lui a donné, en présence de cette sainteté qui ne peut voir le mal, Habacuc 1, verset 13, un vêtement parfaitement blanc. Mais le croyant n'a pas seulement trouvé la paix avec Dieu, il devient enfant de Dieu, en sorte qu'il peut jouir des douceurs de la communion avec le Père et le Fils par la puissance du Saint-Esprit. Il faut envisager la croix sous deux points de vue. D'abord, elle satisfait au droit de Dieu et à ce qu'exige sa gloire. Ensuite, elle est l'expression de l'amour de Dieu. Si nous considérons nos péchés sous l'angle des droits de Dieu, comme juge, nous trouvons que la croix a satisfait à tous ses droits. Dieu, comme juge, a été parfaitement satisfait et glorifié à la croix. Mais il y a plus que cela. Dieu a des affections aussi bien que des droits. Et la croix du Seigneur Jésus révèle au pécheur toutes ses affections d'une manière convaincante. En même temps, le pécheur reçoit une nouvelle nature, capable de jouir de ses affections et d'avoir communion avec le cœur duquel elles découlent. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Nous ne sommes donc pas seulement introduits dans un nouvel état, mais amenés à une personne, savoir à Dieu lui-même. Et nous sommes faits participants d'une nature qui est capable de trouver ses délices en lui. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. Romains 5, verset 11. Le but de la délivrance d'Israël. Quelle force et quelle beauté ne découvrons-nous pas dans ces paroles de délivrance ? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés. Luc 4, versets 18 et 19. La bonne nouvelle de l'Évangile annonce la délivrance de tout joug et de toute servitude. La paix et la liberté, comme Dieu l'a déclaré, sont les dons que l'Évangile apporte à ceux qui le reçoivent par la foi. Remarquez qu'il est dit « afin qu'il me célèbre une fête ». Si les enfants d'Israël devaient en finir avec le Pharaon, c'était pour qu'ils commencent avec Dieu. Le changement était grand. Au lieu de se fatiguer sous le joug des exacteurs du Pharaon, ils devaient célébrer une fête à l'Éternel. Bien que, pour cela, il ait été nécessaire de passer de l'Égypte au désert, la présence divine devait les y accompagner. Et si le désert était triste et sauvage, il était le chemin qui conduisait en Canaan. Il était dans les desseins de Dieu qu'Israël célèbre une fête solennelle à l'Éternel dans le désert, et pour cela, il fallait qu'on le laisse aller hors d'Égypte. Les pensées du Pharaon. Toutefois, le Pharaon n'était aucunement disposé à obéir à l'ordre divin. Qui est l'Éternel, pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Dit-il. Verset 2. Par ces paroles, le Pharaon exprime clairement sa véritable condition morale, l'ignorance et la désobéissance. Ces deux choses vont ensemble. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas lui obéir, car l'obéissance est toujours fondée sur la connaissance. Le Pharaon ne se connaissait pas plus lui-même qu'il ne connaissait Dieu. Il ne savait pas qu'il était un pauvre ver de terre, suscité dans le but exprès de faire connaître la gloire de celui duquel il disait qu'il ne le connaissait pas. Exode 9, verset 16, Romains 9, verset 17. Et Moïse et Aaron dirent « Le Dieu des Hébreux s'est rencontré avec nous. Nous te prions, laisse-nous aller le chemin de 3 jours dans le désert et que nous sacrifions à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne se jette sur nous par la peste ou par l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos corvées. Que le service pèse sur ces hommes et qu'ils s'y occupent et ne regardent pas à des paroles de mensonge. » Versets 3 à 9. Quelle révélation des ressorts secrets du cœur humain ne trouvons-nous pas ici? Quelle complète incapacité d'entrer dans les choses de Dieu! Tous les droits divins et toutes les révélations divines étaient, selon l'estimation du Pharaon, des paroles de mensonge. Que lui importait le chemin de 3 jours dans le désert ou une fête à l'Éternel? Comment aurait-il pu comprendre la nécessité d'un pareil voyage ou la nature ou le but d'une pareille fête? Il pouvait comprendre ce que c'était que de porter les charges et de faire des briques. À son jugement, ces choses-là étaient de la réalité, mais quant à Dieu, à son service ou à son culte, il ne pouvait y voir qu'une illusion inventée par ceux qui cherchaient une excuse pour échapper à leur travail. Trop souvent il en a été de même pour les sages et les grands de ce monde, qui toujours ont été les premiers à taxer de folie et de vanité les témoignages divins. Écoutez par exemple l'estimation que fit le très excellent Festus de la question débattue entre Paul et les Juifs. Ils avaient contre lui quelques questions touchant leur culte religieux et touchant un certain Jésus mort que Paul affirmait être vivant. Acte 25, verset 19. Hélas, combien peu il savait ce qu'il disait. Combien peu il comprenait ce qu'impliquait la question de savoir si Jésus était mort ou vivant. Il ne pensait pas à l'immense portée de cette question pour lui-même et pour ses amis, Agrippa et Bérénice. Mais cela ne changeait rien au fait lui-même. Lui et eux savent maintenant davantage sur ce sujet, bien que, dans les jours passagers de leur gloire terrestre, ils ne les considéraient que comme une question de superstition, indigne de l'attention d'hommes sensés et uniquement propre à occuper le cerveau dérangé d'un visionnaire enthousiaste. Oui, la grande question qui décide de la destinée de tout enfant d'Adam, cette question sur laquelle repose la condition présente et éternelle de l'Église et du monde, et à laquelle se rattachent tous les conseils de Dieu, était, selon le jugement de Festus, une vaine superstition. Il en fut de même pour le Pharaon. Il ne savait rien de l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Aussi regardait-il tout ce que Moïse et Aaron lui avaient dit comme des paroles de mensonge. À l'esprit profane de l'homme, les choses de Dieu paraissent toujours vaines, inutiles et dépourvues de sens. Le nom de Dieu peut faire partie du vocabulaire d'une religion de forme, mais Dieu lui-même n'est pas connu. Son nom précieux, dans lequel se trouve renfermé tout ce que le cœur du croyant peut désirer et dont il peut avoir besoin, n'a pour l'incrédule ni signification, ni puissance, ni vertu, et ainsi tout ce qui traite de Dieu ou se rapporte à lui est regardé comme des paroles de mensonge. Mais le temps approche rapidement, où il n'en sera plus ainsi. Le tribunal de Christ, les jugements à venir, les temps de feu, ne seront pas des paroles de mensonge. Non, assurément. Et tous ceux qui, par la grâce, croient que ces choses sont des réalités, devraient s'efforcer de réveiller la conscience de ceux qui, comme le Pharaon, tiennent la fabrication des briques pour la seule vraie réalité. Hélas, combien souvent les chrétiens eux-mêmes vivent dans les choses visibles, dans les choses de la terre, de manière à perdre le sens profond de la réalité des choses divines et célestes. Nous avons besoin de vivre davantage dans la région de la foi, dans la région du ciel et de la nouvelle création. Alors nous verrions les choses comme Dieu les voit. Nous penserions à leur égard comme Dieu pense, et notre vie tout entière serait plus élevée, plus désintéressée, plus complètement séparée des choses terrestres. Moïse, incompris de ses frères. Cependant, l'épreuve la plus douloureuse pour Moïse n'est pas le jugement porté par le Pharaon sur sa mission. Le serviteur fidèle, dont le cœur est tout entier à Christ, doit toujours s'attendre à être regardé par les hommes du monde comme un halluciné. Nous ne pouvons pas attendre d'eux un autre jugement. Plus un serviteur sera fidèle à son maître, plus il marchera sur ses traces et sera conforme à son image, plus aussi il peut s'attendre à être considéré comme étant hors de sens. Ce jugement du monde ne devrait donc ni le désappointer, ni le décourager. Mais une chose infiniment plus pénible pour lui, c'est de voir son ministère et son témoignage rejetés par ceux qui en sont eux-mêmes les objets particuliers. En pareil cas, il a besoin d'être beaucoup avec Dieu, dans le secret de ses pensées. Il a besoin de vivre beaucoup dans la puissance de la communion avec lui, pour être maintenu dans son service. Si, dans des circonstances aussi difficiles, on n'est pas pleinement persuadé d'avoir reçu sa mission d'en haut, si l'on n'est pas conscient d'avoir Dieu avec soi, on risque bien de se décourager. Si Moïse n'avait pas été ainsi soutenu, comment aurait-il persévéré quand l'oppression croissante du Pharaon arracha au commissaire des fils d'Israël ces paroles de découragement « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge, car vous nous avez mis en mauvaise odeur auprès du Pharaon et auprès de ses serviteurs, de manière à leur mettre une épée à la main pour nous tuer. » Versets 20 et 21. Il y avait là de quoi accabler Moïse. Il retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis entré vers le Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Versets 22 et 23. Au moment même où la délivrance semblait proche, les choses avaient pris l'aspect le plus décourageant. Tout comme dans la nature, l'heure la plus sombre de la nuit est celle qui précède immédiatement l'aube du jour. Ainsi en sera-t-il dans l'histoire d'Israël au dernier jour. L'heure de l'obscurité la plus profonde et de l'angoisse la plus effrayante précédera l'apparition soudaine du soleil de justice, Malachie 4, versets 1 et 2, apportant la guérison dans ses ailes pour guérir définitivement la plaie de la fille de son peuple, Jérémie 6, verset 14 et 8, verset 11. Encouragement à Moïse. Le « pourquoi » de Moïse, cité au verset 22 du chapitre 5, ne fut certes pas dicté par une foi réelle et par une volonté brisée. Cependant, le Seigneur ne reprend pas Moïse pour son « pourquoi », occasionné par la grandeur de la fiction du moment. Il lui répond avec bonté « Tu verras maintenant ce que je ferai au Pharaon, car contraint par main forte, il les laissera aller, et il les chassera de son pays. » Chapitre 6, verset 1. Cette réponse est empreinte d'une grâce toute particulière. Au lieu de reprendre vertement celui qui se permettait de mettre en question ses voies insondables, ce Dieu miséricordieux cherche à relever l'esprit accablé de son serviteur en lui dévoilant ce qu'il allait faire. C'était agir d'une manière digne de Dieu, de qui descend toute grâce excellente et tout don parfait, qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches. Jacques 1, versets 5 et 17. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. Dieu révèle son nom d'Éternel. Ce n'est pas non plus uniquement dans ses actes, mais en lui-même, dans son propre nom et dans son caractère, que Dieu voudrait faire trouver au cœur la consolation et la joie. Et là est le bonheur parfait, divin, éternel. Quand le cœur trouve en Dieu lui-même le soulagement dont il a besoin, quand il peut se réfugier dans le sûr asile que lui offre son nom, quand il peut trouver dans le caractère de Dieu la réponse parfaite à tous ses besoins, alors il est véritablement élevé au-dessus des choses créées. il peut oublier les belles promesses de la terre et estimer à leur juste valeur les orgueilleuses prétentions de l'homme. Le cœur qui connaît Dieu par expérience peut non seulement regarder la terre et dire « Tout est vanité », mais encore regarder directement à Dieu et dire « Toutes mes sources sont en toi ». Psaume 87, verset 7. Et Dieu parla à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel, Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom d'Éternel, Jéhovah. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjournement, dans lequel ils ont séjourné. Et j'ai aussi entendu le gémissement des fils d'Israël que les Égyptiens font servir, et je me suis souvenu de mon alliance. » Versets 2 à 5. L'Éternel, ou Jéhovah, est le titre que Dieu prend comme libérateur de son peuple, en vertu de son alliance de grâce pure et souveraine. Il se révèle lui-même comme étant la source éternelle de l'amour rédempteur, établissant ses conseils, accomplissant ses promesses et délivrant son peuple élu. C'était le privilège d'Israël de pouvoir demeurer toujours sous la sauvegarde de ce nom significatif de l'Éternel, de ce nom qui manifeste Dieu comme agissant pour sa propre gloire et formant son peuple opprimé pour publier cette gloire. Voir Ésaïe 43, versets 11, 12, 15 et 21. C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, « Je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements, et je vous prendrai pour être mon peuple, et je vous serai Dieu, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et je vous ferai entrer dans le pays au sujet duquel j'ai levé ma main, pour le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession. Je suis l'Éternel. » Versets 6 à 8. Tout ceci proclame la grâce la plus pure et la plus riche. L'Éternel se présente au cœur des siens comme étant celui qui agirait en eux, pour eux et avec eux, pour la manifestation de sa propre gloire. Ils étaient faibles et misérables, mais il était descendu pour faire voir sa gloire, manifester sa grâce et donner un exemple de sa puissance dans leur entière délivrance. Sa gloire et leur salut étaient inséparablement liés. Plus tard, toutes ces choses ont été rappelées à leur souvenir. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé, et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Dieu nous aime tels que nous sommes. Rien n'est plus propre à nous affermir et à nous établir sur un solide fondement que de savoir que Dieu s'est chargé de nous tels que nous sommes, et en connaissant parfaitement ce que nous sommes. Il ne peut jamais faire en nous aucune découverte qui pourrait altérer la mesure de son amour pour nous. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jean 13, verset 1. Celui qu'il aime, il l'aime jusqu'à la fin, d'un amour invariable. C'est là un sujet de joie inexprimable. Dieu savait tout ce que nous étions. Il connaissait ce qu'il y avait de plus mauvais en nous quand il manifesta son amour pour nous dans le don de son Fils. Il savait ce dont nous avions besoin, et il y a pourvu. Il connaissait le montant de la dette, et il l'a payé. Les exigences de sa propre gloire devaient être satisfaites, et il y a satisfait. Tout est son œuvre à lui. C'est pourquoi il dit à Israël, « Je vous ferai sortir. » Je vous ferai entrer. Je vous prendrai pour mon peuple. Je vous donnerai le pays. Je suis l'Éternel. » C'est là ce qu'il voulait faire en vertu de ce qu'il était. Aussi longtemps que cette grande vérité n'a pas été pleinement saisie par la puissance du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de paix solide. On ne peut pas avoir le cœur heureux ni la conscience tranquille avant de savoir et de croire que tous les droits divins ont été parfaitement satisfaits. Registre des familles d'Israël. Le reste de ce chapitre 6 contient un registre des chefs des maisons de père des Israélites. Ce registre est intéressant en ce qu'il nous montre l'Éternel faisant le dénombrement de ceux qui lui appartiennent alors qu'ils sont encore dans le royaume de l'ennemi. Israël était le peuple de Dieu, et Dieu fait ici le dénombrement de ceux sur lesquels il avait un droit souverain. Quelle grâce merveilleuse! Il trouve son intérêt en ceux qui étaient au milieu de toute la dégradation de la servitude de l'Égypte. Celui qui a fait les mondes et qui est entouré d'anges toujours prêts à faire son bon plaisir, psaume 103, verset 21, descendit ici-bas dans le but d'adopter quelques esclaves au nom desquels il voulait bien unir son nom. Il descendit auprès des fours à briques d'Égypte, il vit là un peuple gémissant sous le fouet de l'oppresseur, et prononça alors ces mémorables paroles « Laisse aller mon peuple ». Et ayant dit ainsi, il commença à en faire le dénombrement, comme pour dire « Ceux-ci sont à moi ». Voyons combien ils sont, afin que nul ne soit laissé en arrière. De la poussière, il fait lever le misérable, de dessus le fumier, il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles, et il leur donne en héritage un trône de gloire. 1 Samuel 2, verset 8.